Et bienvenue sur Terre Commune, une émission bimensuelle sur votre radio CFM qui parle de biodiversité, d'écosystèmes, de nature sauvage. Je suis Anthony Vieillard, animateur et naturaliste de l'entreprise Vulgaris Terra. Nous nous retrouvons tout le long de l'année afin de parler des écosystèmes qui nous entourent, des espèces animales, parfois végétales, des oiseaux, des lieux secrets qui peuplent encore nos campagnes. Toutes ces thématiques autour de la nature sauvage ont pour but de vous faire découvrir et de vous sensibiliser à tous ces êtres vivants avec qui nous partageons notre terre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animal discret, presque invisible, mais pourtant bien présent dans nos rivières. Je vais nommer la belle loutre d'Europe, qu'on appelle également loutra en latin. C'est un mammifère fascinant, longtemps persécuté, qui revient aujourd'hui progressivement dans nos paysages, et notamment en Occitanie, dans le Massif central, et globalement quand même dans le sud de la France, et qui remonte petit à petit dans l'ouest et dans le centre, et bientôt dans l'est et dans le nord. Donc grosso modo, elle est en train de conquérir tout notre beau pays, reconquérir en tout cas. C'est un mammifère fascinant par bien des raisons, puisqu'en fait c'est un animal qui est carnivore, plutôt de la famille des mustélidés, donc comme le blaireau dont on a déjà parlé, la fouine, la martre, la belette, le putois et ainsi de suite. Elle mesure entre 1 mètre et 1 mètre 20, dont près d'un tiers pour la queue, et qui pèse généralement 6 à 12 kilos, suivant si c'est un mâle ou une femelle. Son corps est parfaitement adapté à la vie aquatique, puisqu'elle possède un corps bien allongé et hydrodynamique, avec des pattes courtes mais puissantes, qui lui permettent de vraiment bien nager, avec des doigts donc, qui sont reliés à une membrane partielle, donc elle est palmée, et avec une queue musculée servant de gouvernail. Donc une queue vraiment très très puissante qui lui permet de pouvoir se diriger dans l'eau, de pouvoir également se remonter rapidement ou justement descendre rapidement dans l'eau pour se cacher. Ses oreilles et ses narines peuvent se fermer lorsqu'elle plonge, et ça c'est quand même plutôt exceptionnel chez les mammifères terrestres, parce que ce n'est pas un mammifère aquatique. Et on va dire qu'elle est plutôt semi-aquatique du fait qu'elle elle le chasse dans l'eau, mais elle ne vit pas exclusivement dans l'eau. La loutre possède l'une des fourrures les plus denses chez les mammifères terrestres européens. Et on va en compter 80 000 poils au centimètre carré, ce qui est quand même assez hallucinant. Ça va lui permettre plusieurs choses. Grosso modo, elle est constituée de poils de jarre, ce sont les poils qui vont permettre l'imperméabilité de sa fourrure, et un sous-poil extrêmement dense qui, là, va lui permettre de pouvoir vraiment s'y isoler de toute hypothermie qu'elle pourrait subir dans l'eau. Ce système, en fait, il emprisonne comme une espèce de couche d'air qui assure une isolation thermique très très efficace, en somme. Mais avant de continuer de parler de la loutre d'Europe, je vous propose d'écouter une première musique avec Amor d'Assao de Vox Bigeri.
Ouais, que soy yo, en bala de lusta. La blue flaque, yeo malaudio, lume que pus, que la nata o portao, a la vez escuto, mami o marío. Que te papera lio. Cu dizeras que soy hero malad, que bachelet sen espera la lio.
Vous êtes de nouveau sur CFM Radio et dans l'émission Terre Commune et vous venez d'écouter Amor Dassau de Vox Bigeri. Alors juste avant cette magnifique musique, nous parlions de la loutre d'Europe et nous allons continuer donc sur la description un petit peu de cet animal, de ce mammifère. Et c'est un mammifère donc qui va chasser principalement de manière nocturne ou crépusculaire. En fait, elle s'est habituée durant des centaines d'années à vivre de nuit, mais ce n'est pas réellement ses habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un animal normalement qui est diurne, qui pouvait très bien se reproduire, se déplacer, se chasser de jour. Sauf qu'elle a tellement été chassée à une certaine période, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, mais qu'en fait, elle a dû s'accoutumer et s'habituer à une vie nocturne, crépusculaire, pour éviter justement d'être dérangée ou chassée par l'homme. Donc, encore une fois, nous avons contribué à faire changer des habitudes de vie ou alimentaires d'animaux. Ce n'est pas la première fois, on en avait déjà parlé avec le renard roux, par exemple. Dans ce côté un petit peu crépusculaire, en fait, elle va pouvoir parcourir plusieurs kilomètres chaque nuit le long des rivières, puisqu'elle a un territoire qui peut aller, pour les femelles essentiellement, entre 10 et 20 kilomètres linéaires de rivières. Et pour les mâles, on va atteindre jusqu'à environ 50 kilomètres de rivières linéaires, ce qui va permettre de chevaucher plusieurs territoires de femelles. Elle a plutôt un régime alimentaire qui est majoritairement composé de poissons. Mais il est vrai que selon le milieu, elle peut aussi consommer des amphibiens, par exemple. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, notamment quand elles sont sur une transition de rivière et qu'elles passent par un étang ou un lac, où on va en retrouver plus, voire même aller dans une mare. C'est des choses qui peuvent arriver, une grande mare quand même. Et elle va manger des insectes aquatiques, elle peut manger des petits oiseaux qu'elle retrouve sur le bord de la rivière. On arrive à constater également qu'elle mange, en tout cas elle mange depuis toujours, des écrevisses. Alors, il est vrai que par chez nous, je fais pas mal de suivi de loutres depuis quelques années, et on est quand même sur une vraie grosse part alimentaire pour les écrevisses. C'est-à-dire que dans ces excréments, on va retrouver essentiellement, en tout cas très régulièrement, trois quarts du temps, on va trouver de la carapace, en tout cas de l'exosquelette d'écrevisses. Alors, on en a discuté avec plusieurs spécialistes de la loutre. Il n'y a rien de scientifiquement prouvé jusqu'à présent, mais il est quand même évoqué que l'écrevisse américaine, qui est une espèce invasive, qui pullule de plus en plus dans les rivières, en tout cas depuis quelques années, et qui remplace notre écrevisse à pattes blanches, en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de loutres qui vont dans les bras de rivière, en tout cas qui colonisent de nouveaux territoires et de nouveaux bras de rivière, où il y a essentiellement de l'écrevisse américaine. C'est son prédateur naturel, du coup, et c'est tant mieux, puisqu'elle régule énormément l'écrevisse américaine. Donc il y a quelque chose à jouer, en tout cas, on pourrait imaginer une étude et faire vraiment une statistique à l'échelle territoriale et peut-être même nationale pour essayer de constater si effectivement l'écrevisse américaine contribue au fait que la loutre d'Europe étend son territoire et colonise, toutes les régions, presque toutes les régions, en tout cas de France. Donc, en tout cas, elle pourrait y contribuer. C'est quelque chose qui se dit pas mal entre naturalistes, mais sans, comme je l'ai déjà dit, sans études bien avérées. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour diminuer la propagation de cette espèce d'écrevisse. On dit qu'elle s'adapte toujours aux ressources disponibles, dans le sens où, alors souvent j'ai entendu qu'elle pouvait manger tous les poissons de la rivière et que malheureusement les pêcheurs n'ont plus de poissons pour eux. Alors je rappelle que les poissons ne sont à personne, et seulement à la rivière, et que en réalité une loutre va manger de la truite, c'est ça que je voulais dire, va manger de la truite, elle va en manger peut-être une voire deux dans la journée, puisqu'en fait, elle va manger 3 kilos de poisson environ, c'est une moyenne, par jour. Puisque, comme je l'ai dit, elle va manger du poisson, mais elle va aussi manger de l'écrevisse, elle va aussi manger des insectes aquatiques, et ainsi de suite. Donc, elle ne va pas avoir exclusivement un poisson, ou en tout cas, manger 10 kilos de poisson par jour. Alors, il peut y avoir des jours, effectivement, où elle va se nourrir beaucoup plus, mais on va plutôt être en période hivernale et elle va essayer de stocker des réserves. Mais c'est bien au-delà de ce qu'on peut penser en disant qu'elle décime tous les poissons de la rivière. Je rappelle que s'il y a moins de poissons en rivière, c'est essentiellement dû à l'état écologique des rivières et notamment du fait qu'elles aient été énormément polluées à une certaine période et qu'elles le sont encore plus tôt, puisqu'on retrouve énormément de métaux lourds dans l'eau, par exemple, de cadmium, on en parle assez régulièrement en ce moment, de PFAS et ainsi de suite. Donc ça va plutôt contribuer à la disparition des poissons que la loutre d'Europe. Il faut se dire une chose, c'est qu'en plus de ça, elle va pas manger n'importe quel poisson, elle va surtout manger des poissons qui vont être plutôt faibles, voire malades. Ce qui contribue au fait qu'elle participe à nettoyer les mauvais poissons de la rivière, entre guillemets, en sachant qu'il n'y a pas de mauvais poissons. Maintenant, vous allez me dire, tu viens de nous dire qu'il y a des loutres d'Europe un petit peu partout dans nos rivières, mais comment on fait pour les repérer? Alors, c'est assez simple. Alors déjà, vous pouvez venir sur une de mes balades accompagnées et guidées, où je vous apprendrai à lire les indices de présence de la loutre d'Europe. Voilà, comme ça, je fais un peu ma pub. Et sinon, il y a quelque chose, enfin en tout cas, il y a quelques signes assez faciles à entrevoir. Ça va être aussi de pouvoir lire ses empreintes. Alors, ses empreintes, c'est une empreinte de pas avec 5 doigts, puisque c'est un mustélidé, où on peut voir la palmure et de forme un petit peu arrondie. Donc ça, c'est pour ses empreintes. Et maintenant, je vais vous parler de ses épreintes, qui n'est pas le même mot, et qui va définir du coup ses excréments qu'on va retrouver sur des rochers ou des racines d'arbres en bord de rivière ou même au milieu de la rivière, plutôt en hauteur, en tout cas le plus haut possible, puisque comme à peu près tous les mustélidés. De faire ses excréments en hauteur permet de se faire sentir par les autres beaucoup plus... enfin, en tout cas, c'est plus étendu sur le territoire. Donc, elle va les déposer bien en évidence et... ces excréments, ces épreintes ont une odeur caractéristique qui va avoir une bonne odeur de fumée de poisson, évidemment, ou de bisque d'écrevisse. Mais la particularité, pour les excréments bien frais, on va avoir une odeur de miel. Et ça, c'est assez spécifique à cette espèce animale-là. Je venais sur mes balades et je vous ferai sentir et vérifier qu'on sent bien le miel. On va également, en bord de rivière, trouver des coulées et notamment des toboggans, donc plutôt des passages où elle va rentrer et sortir de la rivière, qui vont être très aplatis, assez boueux, où on ne va pas forcément avoir d'empreintes de pas ou quoi que ce soit, parce que là, elle va se laisser glisser sur le ventre et justement, ça va faire ce côté un petit peu toboggan. Ok ? Donc ça, ce sont les indices de présence assez particulière. Et une dernière, ça va être des restes de repas. Donc plutôt là où on va trouver, eh ben, par exemple, des morceaux de pinces d'écrevisse, des écailles de poisson, voire même des morceaux de poisson et ce genre de choses. Donc là, on sera en présence vraiment de la loutre. Donc voilà. On a... en termes de reproduction, tout à l'heure je le disais, par rapport au territoire, donc ils ont un territoire assez étendu, et la femelle n'a pas une période de reproduction spécifique dans l'année. C'est-à-dire qu'elle va se reproduire tous les un an et demi à peu près, et c'est elle qui va choisir, en rencontrant un mâle, si elle n'est plus suivie par des loutrons, qui sont les petits de la loutre, si elle est toute seule, elle va décider si oui ou non elle va se reproduire, et donc ensuite, le mâle va refaire son chemin, en tout cas va reprendre son chemin, la loutre, elle, va avoir une gestation entre 60 et 63 jours à peu près, pour donner naissance à 1 à 3, voire parfois exceptionnellement 4 loutrons. Ces petits loutrons, ils vont naître aveugles, entièrement dépendants, et ils vont naître dans une catiche. La catiche, c'est le terrier de la loutre d'Europe, qu'on va retrouver sur les berges, en tout cas sur le bord des berges, et essentiellement sous des rochers un peu creusés sous la berge, voire même sous les racines des arbres, ce genre d'endroit-là. Les loutrons vont ouvrir leurs yeux au bout d'un mois à peu près, et ils vont commencer à sortir vers 2 mois pour commencer à l'apprentissage, pour commencer de la nage. Ce qui va se passer, c'est que la mère, donc les loutrons ne savent pas nager, ce n'est pas instinctif, donc la mère va prendre les loutrons, s'installer au bord de la catiche, et elle va les jeter dans l'eau. Et elle va les récupérer. Et elle va se remettre sur le bord de l'eau, et puis elle va les jeter dans l'eau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les loutrons arriveront instinctivement, du coup non, mais en tout cas avec l'apprentissage, ils vont apprendre à nager. Alors c'est là où aussi on peut perdre certains loutrons, étant donné que ceux qui n'arrivent pas à nager sont les plus faibles, et la sélection naturelle fera que ceux-là ne seront pas forcément sauvés, alors pas dès le premier essai, mais au bout de plusieurs essais, et donc ça sélectionnera un petit peu dans la fratrie. Et après avoir réussi à nager, à plonger et à capturer leur proie, ils vont rester avec leur mère entre 8 et 10 mois, voire même parfois jusqu'à 16 mois, donc presque un an et demi. Et au bout d'un an et demi, ils vont s'émanciper et aller conquérir un nouveau territoire. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Allez, je vais vous relancer une nouvelle musique et ensuite nous continuerons avec la loutre d'Europe. Et là, je vous propose d'écouter Chico Buerques avec Esa Mosca Ta Diferente.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me desinventar o som. Faço de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça...
Et vous êtes de nouveau sur CFM Radio dans l'émission Terre Commune et vous venez d'écouter Chico Buerques avec Esa Mocata Diferente. Alors, nous avons parlé de la loutre d'Europe et du fait que nous avons évoqué que c'était quand même plutôt une espèce bio-indicatrice, ce qui va nous permettre de savoir si une rivière est plutôt en bonne santé ou pas. Mais justement, on va parler de la santé plus de la loutre d'Europe pour terminer cette émission là-dessus. Il faut se rendre compte quand même qu'au XXe siècle, presque toutes les loutres d'Europe avaient disparu du territoire. Donc on était plutôt sur à peu près 1500 individus seulement, répartis entre le Massif central et le bassin d'Arcachon. Donc il y a eu un petit peu de réintroduction, il y a eu surtout de la sauvegarde, et parce que à partir de 1972, la loutre a été le deuxième animal en France à être strictement protégé. Et ça lui a permis de pouvoir être déjà en meilleure santé, puisqu'elle était chassée essentiellement pour sa fourrure. Et donc, voilà, c'est vraiment la date 1972 qui nous permet de voir qu'il y a une meilleure expansion de celle-ci, en tout cas... Une meilleure santé, et de voir que un peu moins d'agriculture intensive, en tout cas moins d'intrants chimiques, encore un petit peu à cette période-là, mais 1980, on commençait à avoir un petit peu moins de produits, de pesticides, un peu moins de nappes phréatiques polluées, et au fur et à mesure jusqu'à maintenant, je ne dis pas que nos cours de rivière sont extrêmement propres, je l'ai déjà dit, il y a plein de métaux lourds à l'intérieur et d'autres mauvais produits, mais on est quand même sur une meilleure qualité que dans les années 70, 60 même, et 80. Donc grâce à sa protection et au fait que l'agriculture se soit assagie en termes de produits, le fait est qu'aujourd'hui, on est sur une repopulation du territoire, et notamment donc du sud de la France, et ce qui va nous concerner un peu plus en Aveyron. Il faut vraiment se dire qu'en Aveyron, tout bras de rivière, tout cours d'eau ou ruisseau, eh bien, sont conquis par nos chères loutres d'Europe. Voilà pour ces petites explications. J'aimerais juste terminer sur le travail incroyable que peut faire Bastien Masson, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, mais aussi sur son site internet. Bastien Masson est un photographe vidéaste animalier spécialisé dans la loutre d'Europe. Je mettrai dans la description de l'épisode ses liens pour aller voir son travail. Il est assez incroyable, il est bientôt maître loutrier, comme on peut pourrait appeler dans ce milieu-là. Il documente énormément et filme énormément la loutre. Donc vraiment, il fait un boulot super pour sa compréhension. Il fait des conférences également sur ce sujet-là, plutôt dans le Massif central et notamment en Auvergne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir son travail et à les soutenir aussi. Il a fait un super livre sur la loutre. Il est temps pour moi maintenant de vous laisser et de vous retrouver dans 15 jours pour encore une nouvelle émission. Et en attendant, je vais vous souhaiter une très très belle journée ensoleillée et surtout ensauvagée. À très bientôt. Ciao, bye. Thank you.